la trêve n'est pas pour demain. De quelle trêve on parle,
toi? Oui, à première vue, la photo semble totalement décalée. Les couleurs saturées, la mise en scène, le décor, rien dans cet univers hétéroclite, cette esthétique ultra soignée, chargée de références à la fois à la Renaissance et aux natures mortes, ne correspond en réalité au cadre original de la série médiévale et fantastique. Restent toutefois les détails, en particulier ce couteau posé au centre de la table entre un crâne et un sablier, suggérant combien tout ne sera qu'une question de temps avant que chacun, convaincu que tel est son destin, ne se décide à rompre la trêve et frapper l'autre pour prendre le pouvoir. À l'approche du lancement de la saison 7 de la série Game of Thrones, le magazine américain Time, qui ne pouvait échapper au phénomène audiovisuel de la décennie, a donc ainsi dévoilé la couverture de son numéro à paraître lundi prochain avec ce titre élogieux « Comment ils ont réussi à faire la série la plus populaire au monde ». Alors, si je vous parle ce matin de Game of Thrones, Lucas, c'est parce qu'à lire la presse internationale, on se demande parfois si la réalité ne finit pas par dépasser la fiction. C'est ainsi, par exemple, que cette nuit, on a appris que la Corée du Nord avait procédé à un nouveau tir de missile balistique. Évidemment, ça n'est jamais qu'un tir de plus, diront certains. En un an, relève en particulier The Washington Post, Kim Jong-un aura lancé plus de missiles que son père en 17 ans de pouvoir. Et même si les analystes ont des doutes sur la capacité de la Corée du Nord à miniaturiser une tête nucléaire pour la monter sur un missile, même si aucun ne pense réellement que Pyongyang maîtrise aujourd'hui la technologie nécessaire à un missile intercontinental, cette frénésie de la part du régime nord-coréen témoigne bel et bien de sa détermination à développer des missiles de longue portée capables notamment d'atteindre les États-Unis. Et d'ailleurs, il n'aura échappé à personne que cette nouvelle provocation intervient un 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, mais aussi quelques jours après un premier sommet entre les présidents américains et sud-coréens consacré à la menace nord-coréenne, et enfin à quelques jours d'un autre sommet, celui du G20, au cours duquel Washington, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ne manqueront pas d'aborder à nouveau ce dossier.
Alors aussitôt après ce tir, le président Donald Trump a lui réagi comme à son habitude sur son canal favori Twitter.
Oui, ce type n'a-t-il rien de mieux à faire de sa vie, a notamment lancé le président américain avant d'ajouter peut-être que la Chine va faire un geste fort au sujet de la Corée du Nord et mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes. Le problème, c'est que l'administration de Washington a pris la semaine dernière plusieurs initiatives susceptibles de provoquer la colère de Pékin, notamment en plaçant la Chine sur sa liste noire du trafic d'êtres humains, au même rang que la Syrie ou la Corée du Nord, mais aussi en annonçant pour la première fois des sanctions contre une banque chinoise accusée d'avoir facilité des transactions au profit de compagnies impliquées dans le développement de missiles balistiques nord-coréens. Enfin dimanche, pour la deuxième fois depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, note le magazine Newsweek, Washington a de nouveau bravé Pékin lorsqu'un de ses navires militaires s'est approché d'une île contrôlée par la Chine. Cité par l'agence de presse officielle Xinhua, le ministère chinois des Affaires étrangères a aussitôt dénoncé une sérieuse provocation politique et militaire.
Et la Chine n'est elle-même pas avare en provocation, en témoigne un autre mouvement de troupes inquiétant, cette fois-ci dans la région voisine du Bhoutan.
Oui, l'affaire se déroule aux confins du Sikkim, un minuscule état de l'Union indienne coincé entre le Népal et le Bhoutan. Il y a quelques semaines, l'armée chinoise y a démarré la construction d'une route. Aussitôt, des soldats indiens ont pénétré sur le territoire, déclenchant l'ire de la Chine qui parle de trahison. Quoi qu'il en soit, jamais depuis la guerre de 1962 entre la Chine et l'Inde, autant de troupes n'avaient été rassemblées le long de la frontière entre les deux géants d'Asie. Or, preuve que cette affaire doit être prise très au sérieux, écrit The Hindustan Times, repéré par le Courrier International, un porte-parole de l'armée chinoise a déclaré que l'Inde devrait se souvenir des leçons de l'histoire, en l'occurrence de la défaite cuisante que celle-ci avait essuyée sur cette frontière il y a un peu plus d'un demi-siècle.
Bref Thomas, même si fort heureusement personne n'envisage encore un affrontement généralisé entre grandes puissances, la lecture de l'actualité témoigne de ce que partout les matières inflammables semblent s'accumuler.
Oui, l'on pourrait tirer les mêmes conclusions de ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est même pire encore, remarque le magazine Slate. Certes, Daesh appartiendra peut-être bientôt au passé, au moins en termes d'emprise territoriale. À Raqqa, bastion de l'organisation État islamique en Syrie, les djihadistes sont désormais encerclés, clame ce matin le site de CBS. Sauf que les conflits complexes, multiples et entremêlés qui secouent le Yémen, la Syrie, l'Irak, ainsi que l'affrontement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite ne sont pas franchement de nature à nous rassurer. Mais surtout, tous ces événements pourraient déjà nous inquiéter, quand bien même nous aurions à la tête des principaux États du globe de brillants stratèges et des politiciens clairvoyants. Au lieu de cela, conclut The Washington Post. Ils ont tous peu ou prou ce site commun de se comporter en voyou au regard des normes internationales. Seule certitude, Game of Thrones est bien la série la plus populaire au monde.